Pour introduire mon exposé de manière un petit peu vivante, enfin ma première partie, rassurez-vous, je vais vous raconter une histoire de lectrice. J'ouvre Mille plateaux, je lis dans Rhizome, au début de Mille plateaux, une citation reprise beaucoup par ceux qui s'intéressent à Deleuze et à Guattari, puisqu'ils sont tous les deux les auteurs de ce livre, et qui dit « l'herbe pousse ». C'est pas tout à fait... C'est assez juste, l'herbe en effet pousse. Elle pousse entre, d'accord. Et c'est une citation qui est reprise un petit peu comme un leitmotiv, souvent, par ceux qui aiment Deleuze. Et ce côté mantra tibétain m'exaspère, donc je me demande, tiens, mais pourquoi l'herbe pousse, en effet, Miller. Et la citation donne en référence un titre de Miller, Hamlet. Alors je me dis, mais tiens, mais jamais. Alors. Henry Miller a réécrit une pièce qui s'appelle Hamlet. Enfin, je me demande, parce que je ne vois pas du tout de livre qui corresponde à cette description-là. Je fais un petit peu de recherche et je finis par tomber sur un livre qui n'est pas de Miller, qui n'est pas un livre, qui est un échange de correspondance entre Henry Miller et Michael Frankel, qui est un ami et éditeur de Miller, qui l'a hébergé en 1931. Vous voyez, je regarde mes notes quand il faut être précis. En 1931, quand Miller n'avait pas un sou à Paris, dans une maison, dans une villa assez prestigieuse. Et la première, donc j'ouvre le livre, demandant comment je vais trouver de l'herbe dans ce livre, et je vois une lettre, et la première lettre me dit, enfin je lis, première lettre d'Henri à son ami Michael, « Cher Michael, te souviens-tu de ce beau livre de Shakespeare qui s'appelle Hamlet ?» Est-ce bien exact que ça se passe en Angleterre? Mes souvenirs sont un petit peu confus. Est-ce que Rosencrantz et Guildenstern sont bien des médecins juifs? Et dans mes souvenirs, ça se termine bien. Qu'en dis-tu, mon cher Michael? Réponds-moi vite, je sais que tu es très érudit, tu as beaucoup de livres dans cette maison où tu m'as si gentiment hébergé. Dans la Bibliothèque nationale. Je lis ça en me demandant si mes voisins ne regardent pas au-dessus de mon épaule. Bon. Deuxième lettre. Mon cher Henry, tu as tout à fait raison. En effet, Hamlet se passe en Angleterre. Ça se termine bien. Et bien entendu, les deux compères sont des marchands juifs. Ça se passe en 31. Je ne sais pas s'il faut rappeler cette date. 31, c'est le... Enfin bon, peu importe. Donc, ils sont des marchands juifs, etc. Alors, elle me dit, bon, ben voilà, c'est un canular entre copains. Troisième lettre. Mon cher Michael, si tu m'avais dit que j'avais raison, je ne me serais pas préoccupé de reprendre le livre dans ma bibliothèque, mais puisque tu as tellement insisté sur le fait que j'avais raison et que je connais ton caractère un petit peu astucieux, je suis allé reprendre le livre et quel n'a pas été mon étonnement. Hamlet, en réalité, se passe où vous savez. Et donc, dans ce livre, dans cet ensemble de lettres, que je découvre, vous avez une théorie de la lecture. Une théorie de la lecture où l'on voit aussi le choc entre une tradition qui est une tradition orale, celui du souvenir et de la reprise, de la réeffectuation quasi jazzy, si vous voulez, d'un contenu conceptuel qu'on se passe en le trafiquant, en le travestissant, d'une oreille à une autre, d'une bouche à une autre. Et vous avez aussi quelque chose qui est très sérieux et qui est une... éthologie de la citation. La citation, je suis bien désolé de le dire devant des historiens, je suis en sérieux, la citation probablement ne reste pas intacte lorsqu'on la prélève de son tas poussiéreux d'archives pour la propulser dans un autre élément matériel qui est celui par exemple d'une republication. La citation ne reste probablement pas exactement identique à elle-même et c'est le cas également des archives. Lorsque vous les numérisez, vous les transformez, mais c'est aussi ce qui rend l'histoire tellement importante pour la philosophie, pour la pensée, tellement importante en général, c'est que l'histoire fonctionne comme discipline sur cette coprésence du passé dans sa matérialité et de son présent dans notre actualité. C'est-à-dire que ce court-circuit théorique entre avant et maintenant, ce court-circuit qui est montré de façon si ludique par l'échange entre le grand romancier Henry Miller qui écrit à son ami éditeur à propos de Hamlet, stéréotypes de la culture anglo-saxonne. Ça montre que la citation bouge dans son trajet et il ne faut pas regretter ce bouger en pensant qu'on pourrait avoir affaire à quelque chose qui serait une vérité authentique. Tous les historiens le savent bien. Il faut au contraire tâcher de le cartographier. Et pour essayer de le cartographier, il faut que j'avance un petit peu plus vite, Foucault, je pense, a servi de référence à Deleuze. Il lui a servi de connecteur intellectuel, et ça sur deux points qui sont absolument décisifs. Le premier point est celui de la critique de la notion d'auteur que fait Foucault et à laquelle Deleuze est extrêmement sensible et qui consiste à penser le livre non plus comme la production d'un sujet souverain, mais à penser au contraire l'auteur comme la production du livre et non pas du livre comme individu, élément séparé, mais du livre aussi dans sa coproduction avec ce que j'aimerais appeler, en suivant un concept de Simondon, la zone d'individuation de son époque. Il y a chez Gilbert Simondon, un auteur peu lu, que j'ai été obligé de lire à cause de Deleuze, je vous ai expliqué avant, et qui est absolument fascinant, l'idée que tous les individus, vous, moi, cette bouteille d'eau, ne doivent pas se comprendre simplement sur le mode granulaire et séparé d'une individualité intacte, mais doivent au contraire être pris comme le résultat d'une individuation en acte qui fait que l'individu n'existe que dans son milieu de constitution. Et ne croyez pas, pour autant, qu'on se trouve ramené à une sorte de déterminisme où on aurait des milieux de constitution donnés et puis des individus qui en seraient les résultats causés. Le milieu d'individuation est connexe à l'individu produit. Le milieu n'est pas pré-donné. Vous devez donc en même temps reconstituer le milieu et l'individu, et c'est bien ainsi, je pense, qu'il faut envisager l'histoire du livre et l'histoire des auteurs. Or, il se trouve que Foucault a passionné Deleuze, et spécialement dans l'archéologie du savoir, il l'a passionné à cause de ce que Deleuze lisait dans ce texte concernant la thématique de l'énoncé. Et Deleuze a écrit plusieurs fois, il y a même dans l'œuvre de Deleuze, il publie une première recension en 70, il la réédite chez Fata Morgana en 72, et ensuite il la reprend avec des corrections dans l'œuvre de 86. Et vous voyez que ces transports et ces trajets sont aussi importants, non pas pour dégager une vérité linéaire ou chronologique de la construction de concepts, mais pour observer au contraire les changements, les modifications, les ruptures. Et dans sa première recension de Foucault, Deleuze écrit, au fond, l'énoncé montre qu'il y a trois espaces concentriques. Et alors, on est encore dans une logique qui est celle qu'il avait mise en œuvre pour sa première lecture de Proust et qui doit quelque chose à l'influence de Guéroux, importante pour Deleuze au début de son œuvre et qui consiste à essayer de repérer dans une œuvre la matrice constituante, c'est-à-dire quelque chose comme une formule de constitution théorique de l'œuvre que Guéroux appelait le dianoématique. Or, cette vision trop statique se déjoue en 1986 et Deleuze note maintenant qu'il ne s'agit pas d'espaces qui sont concentriques, mais d'espaces qui doivent être pris les uns avec les autres, et ces espaces sont triples. Le premier est un espace corrélatif, c'est l'espace qui lie un énoncé aux autres énoncés. C'est cet espace qui se caractérise essentiellement, alors là c'est un commentaire de l'archéologie du savoir, un espace qui se caractérise essentiellement par sa rareté, notion que Foucault développe déjà dans son Roussel en 63 et qui pour Deleuze a une très grande importance, par sa rareté et donc par sa régularité, puisque c'est rare, c'est forcément régulier, et de ce point de vue-là, ce qui permet de dégager, vous voyez que l'énoncé n'est pas contenu non plus dans un livre, l'énoncé n'est pas écrit ici, l'énoncé se dégage par répétition régulière et que dans cette régularité, c'est précisément la rareté qui permet la régularité et la régularité qui permet la rareté. Tous les énoncés d'une époque sont ainsi stéréotypiques. Alors vous me direz, mais comment sait-on qu'on passe d'une épistémée à une autre? Comment passe-t-on d'une formation discursive à une autre? Réponse de Deleuze, commentant Foucault, c'est très simple. Il y a un moment où ça change. Vous me direz, mais comment est-ce qu'on sait que ça change ? Ben, je vous réponds, ça change parce qu'à un certain moment, il faut donc considérer que les énoncés forment des séries, on est encore dans un moment assez proche du structuralisme, et que ces séries sont des séries de séries, de telle manière qu'il se passe que sur ces coordonnées de séries, parfois, on observe des points, qui sont des points de singularité, c'est-à-dire des moments où quelque chose change. Et c'est comme ça qu'on peut dégager, par une construction, qui est une construction épistémologique d'un ensemble de textes, quelque chose comme un énoncé, une formation discursive qui est, vous le voyez, de ce point de vue-là, pour Deleuze, comme une condition transcendantale de l'énoncé. C'est la première condition donc, du texte, qui est d'essayer de repérer sa condition transcendantale, rareté et stéréotypie, qui permettent de le rattacher à une formation discursive.